Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Hervé Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc-en-Diois. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Jacques Mourican. Bonjour.
Bonjour.
Jacques Mourican, vous êtes journaliste et vous êtes ici pour nous parler d'un ouvrage qui sort dans sa 6e édition et qui s'intitule « L'écriture journalistique ». Ça paraît aux éditions Que sais-je. Je crois que ce sont des éditions qui émanent des presses universitaires de France.
Absolument, oui.
Donc un livre, un ouvrage pédagogique également, surtout, et qui s'adresse à qui ?
Alors écoutez, fondamentalement aux étudiants en journalisme, j'ai moi-même enseigné pendant très longtemps le journalisme, probablement une vingtaine d'années, et par conséquent, ce qui se trouve aujourd'hui dans ce Que sais-je est un tout petit peu l'armature, si vous voulez, des cours que j'ai pu donner, de façon à donner à des garçons ou des filles qui sont en train d'entrer à l'université ou dans des écoles spécialisées, une sorte des points de repère sur les méthodes de travail, sur également les méthodes de valorisation de son article ou de son émission. Et en somme, ce sont des repères.
Alors, le désir de sortir cet ouvrage, pour vous, c'était sur quelle nécessité ou sur quel point de vue qu'est-ce qui vous a donné cette envie de rédiger ce livre ?
Alors, on rappelle que là, c'est la 6e édition, donc ça n'est plus tout à fait le même désir. Au départ, c'est tout simplement, ayant beaucoup enseigné, donc, je constatais qu'il y avait un manque. Mes étudiants n'avaient pas, à ce moment-là, un document facile, je crois que ça doit faire 140 pages ou quelque chose de ce genre, qui leur permettent de se repérer. Donc, dans un premier temps, il y a eu ce désir-là. Je dois dire qu'au fur et à mesure qu'il a fallu faire de nouvelles éditions, puisque pratiquement ce livre est remis à neuf tous les 3 ans environ, ça m'a donné un regard sur les évolutions de la presse. Et lorsque je dis la presse, bien entendu, j'intègre la radio et la télévision, qui m'a beaucoup stimulé, parce que brutalement, on se dit, tiens, c'est amusant, il y a 3 ans, j'écrivais ça, eh ben, c'est de moins en moins vrai. Ou alors, au contraire, c'est accentué comme ci, comme ça. Donc, de ce point de vue, c'est un autre plaisir.
Il y a l'avènement de l'Internet aussi qui devient incontournable. D'ailleurs, les grands organes de presse nationale sont partie prenante de ce système de communication, mais qui accueille aussi beaucoup d'écueils sur ces pages et qui puisse aussi porter à confusion. Est-ce que ce livre, d'ailleurs, est aussi une sorte de guide pour ne pas de ne pas être leurré ou mal informé, tout simplement.
Écoutez, je le souhaiterais. Je souhaiterais en particulier que ceux qui écrivent sur le net, du moins avec une autre prétention que de diffuser la recette de la pizza, que ceux-là se rendent compte quand même qu'il y a une méthode pour bien faire les choses, pour faire passer un message, si vous voulez. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire en introduction sur l'idée qu'il y a quand même énormément de médiocrité, je veux dire. Ça devient dominant, et ce qui malheureusement devient aussi dominant, c'est le fait que dans l'opinion, il y a, à mon avis, à l'excès, l'idée que il vaut mieux aller voir sur le net, hein, on va aller voir sur les réseaux sociaux, avec des garanties ultra minimum que ce que l'on y trouve est sérieux. Du reste, dans votre question, vous faisiez allusion au fait que un certain nombre de grands titres, enfin même maintenant la quasi-totalité des grands titres de la presse ont un prolongement sur Internet. Je note de façon tout à fait intéressante que lorsqu'on regarde les audiences des grands sites Internet, comme par hasard, et ben justement, ceux qui ont la plus grande audience, ce sont des sites Internet de médias, je dirais, ultra classiques, si vous voulez, parce qu'il n'y a rien à faire, mais en termes de qualité, qu'on le veuille ou non, c'est quand même meilleur.
L'écriture journalistique est une profession, c'est, le journalisme est une profession qui s'enseigne dans des écoles, mais aussi tout au long de son existence, j'imagine.
oui, non, mais on a des bases par les écoles, c'est sûr, mais ensuite, il y a dans l'écriture journalistique, surtout dans la collecte de l'information, toute une dimension humaine, Dieu soit béni, toute une dimension humaine qui fait que on arrive à trouver les subtilités qu'il y a derrière une conversation avec X ou avec Y. On découvre des sources au fil des décennies, parce qu'au début, on n'avait tout simplement pas pensé que ça pouvait exister. Donc oui, bien sûr, non, mais moi, je suis maintenant, hélas, un journaliste de 70 ans, je crois que sur la fin de ma carrière, j'étais bien meilleur que je ne l'étais au début, c'est l'évidence même.
Un livre qui permet ensuite surtout d'écrire correctement pour la presse, c'est le souhait de cet ouvrage. Une presse donc qu'on peut trouver notamment à la télévision, la radio et sur les nouveaux médias, comme vous dites. Mais justement, on a eu des exemples ces derniers temps où des journalistes étaient eux-mêmes trompés par des informations qui n'étaient pas justifiées.
Non, mais écoutez, d'où cette aspect central de l'activité journalistique est la vérification. Hein. Moi, je me rappelle très bien, j'ai travaillé à un moment donné pour un journal économique dont la rédactrice en chef me disait « Écoute, pour chaque colonne de notre format A4, il faut que tu aies 3 informateurs. Autrement dit, il faut que ça soit recoupé. » Et je vais vous dire, je m'amuse beaucoup parce que je suis en train d'écrire un livre sur les hérétiques dans la région. Et je me rends compte que quelquefois, même des historiens tout à fait remarquables, parce qu'ils n'ont pas fait le travail de vérification, parce qu'ils étaient perdus dans des livres savants et que ça les embêtait, par exemple, d'aller sur le terrain, eh bien, passent à côté de certaines informations. Pas plus tard qu'hier, pour ne rien vous cacher, j'étais à Bruis, dans les Hautes-Alpes, dont la plupart des historiens ont oublié de dire que c'était le lieu de naissance d'un célèbre hérétique. Tout simplement parce qu'ils n'y ont pas été. Moi, j'y étais. Et je peux vous dire que faire dit Bruis, c'est rudement casse-pied parce que ça tourne tout le temps. Mais il fallait y aller, il fallait voir, il faut absolument aller voir. La grande crise de la presse aujourd'hui, selon moi, c'est tout simplement que les gens ne vont plus voir. C'est qu'ils travaillent depuis leur bureau. Le téléphone est détestable. Avoir des gens, ou alors, si vous voulez, maintenant, Zoom, les téléconférences, c'est détestable. Parce que le rapport humain qui va faire sortir la vérité n'est pas du tout le même. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller au contact, il faut être tout le temps sur le terrain. Et malheureusement, ça se perd.
Il y a une presse d'information et il y a aussi la presse d'opinion. Pour beaucoup de monde, il y a confusion dans ces aspects. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même ?
Ah ben, écoutez, le fait. C'est ça qui compte. Et moi, les journaux auxquels j'accorde ma confiance ne sont pas les journaux qui pensent, ce sont les gens qui ont quelqu'un physiquement présent sur place pour aller voir les choses qui se passent, y compris lorsque les préjugés idéologiques de la publication en question, que ce soit une radio, une télévision, etc., ne sont pas du tout les miens. Mais il n'empêche que le fait d'être sur place, ça vous empêche de dire n'importe quoi, si vous voulez. Je regrette infiniment que, hélas, avec la complicité d'un certain nombre de mes confrères, l'idée que travailler dans les médias soit exclusivement le fait de donner son opinion, je regrette que ceci lentement s'impose. Car malheureusement, on est dans cette situation assez invraisemblable que plutôt que de vendre la plus-value rédactionnelle qu'ils apportent par la recherche d'informations, on voit des médias supposés nouveaux exclusivement argumenter autour des opinions qu'il diffuse. Moi, je m'excuse, mais je n'ai pas besoin qu'on me prenne par la main. Je suis assez grand pour penser par moi-même. Ça va vous paraître extraordinairement prétentieux. Mais il faut qu'on retrouve le culte du fait.
Vous parliez justement d'une presse qui est un peu aux ordres, qui est peut-être même féodalisée à des grands groupes financiers où les gens se mélangent. On parle aussi des groupes de presse qui sont à la fois aussi marchands d'armes. Tout ça, ça dévalorise aussi le statut du journaliste. Quelle est votre idée sur l'aspect journalistique d'aujourd'hui, qui est en plus décrié par des médias plutôt... opposé à cette profession.
Attendez, je crois que il y a tellement de choses dans votre question que je vais être obligé de sérier. D'abord, le fait qu'il y ait des grands groupes qui soient propriétaires de médias, je me permets de vous rappeler le parfumeur Coty, c'est en 1920. Que le parfumeur Coty, milliardaire de son temps, va essayer de racheter le Figaro. Puis, d'ailleurs, je note, il essaie de racheter le Figaro, il le rachète d'ailleurs, et la rédaction se met tellement en colère qu'il est obligé de se retirer. Donc, vous voyez, la présence de milliardaires, là, je suis désolé de rappeler que Paris Soir, d'abord, Paris Soir entre deux guerres, c'était la lanière de Roubaix, c'était les milliardaires ou les grandes fortunes, disons, pour dire des choses moins caricatural, de l'époque. Et là, si vous voulez, avant de poser la question que vous posez sur les risques évidents que cela peut poser, il faut poser une autre question. C'est pourquoi c'est comme ça. Et je vais vous dire, là, on commence à être très embêté lorsqu'on dit pourquoi c'est comme ça. Parce que lorsque vous regardez dans le classement mondial... l'acquisition de presse, c'est-à-dire le nombre de journaux que lisent les gens. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que les pays où les systèmes scolaires sont bons ont une presse qui est largement suivie par l'opinion, qui, comme par hasard, se trouve dans des pays de culture protestante, simplement parce qu'il se trouve que les protestants ont en effet une familiarité avec la lecture. D'ailleurs, je note que dans ce classement, la presse juive, enfin la presse israélienne plus exactement, est également très bien placée, parce que là encore, vous avez une tradition très ancienne de rapport à la lecture. Et que donc, si en effet... des grandes fortunes achètent des journaux, c'est d'abord parce que ça ne va pas. C'est-à-dire qu'elles viennent combler l'incapacité à monter des entreprises de presse qui soient rentables. Je suis bien désolé, mais lorsque vous regardez la presse du nord de l'Europe, par exemple, ça va bien. Ça marche. Chez nous, ça ne marche pas. Nous avons eu tout récemment encore... Europe numéro 1 va probablement repris par Bolloré. Mais pourquoi? Mais c'est parce que Europe 1 va mal. On a eu la même chose avec Libération. Mais pourquoi? C'est parce que ça allait mal. Je veux dire, il y a une vraie question autour du fait de savoir pourquoi nos entreprises de médias, lorsqu'elles sont strictement entre les mains de journalistes, ont des problèmes de gestion. Et il faut absolument affronter cette chose de face. Alors maintenant, si vous me dites, ça serait quand même rudement mieux qu'on n'ait pas des... Vous avez fait allusion au groupe Lagardère, donc des marchands d'armes. Évidemment que moi, je suis d'accord avec vous, si vous voulez. Mais c'est un problème de hiérarchie de l'information. Qu'est-ce qui est le plus important? Pourquoi est-ce que des entreprises de presse montées par des journalistes ont très régulièrement échoué? Je vais vous dire, on va parler de la région là où nous vivons, le Val-de-Drôme. Nous avons... trois hebdomadaires, un qui se trouve sur Valence, l'ancien Peuple Libre, le Crétois sur la région du bassin de Cré, et le journal du Diois, ici même, autour de la ville de Die. Bon, moi je prie tous les matins, je brûle un cierge tous les matins, qu'ils arrivent à sauver leurs grands équilibres. Et je vous garantis bien que je ne le crois pas tellement, parce que précisément là, il n'y a pas de grand capital. Il y a un mini-capital absolument ridicule, et que Les grands équilibres ne sont pas assurés. Je vais vous donner un deuxième exemple qui se passe également dans la région. Un certain nombre de gens ont dit très régulièrement « Ah bah oui, mais si on met tous les lecteurs dans le coup, on va y arriver. » Eh bah tiens donc, il se trouve que sur Cray, il y a quelqu'un qui a tenté deux fois suite le coup, François Bouys, à travers un petit journal qui s'appelle Le Bec, enfin qui est un journal électronique. Dans les deux cas, ça a échoué. Le public n'a pas suivi, il n'a pas voulu soutenir cette initiative. Donc, on est devant un vrai problème qu'il faut regarder en face. Alors, je suis très embêté qu'il y ait des milliardaires. D'accord, tout ce que vous voulez. Mais à condition qu'on regarde quand même le principal problème d'abord.
Cette reprise par des milliardaires, c'est le fait aussi qu'ils ont les moyens de supporter les dépenses ou le déficit. L'État, quel mot a-t-il à dire sur ce sujet aussi? Est-ce que l'État peut aussi être une garantie d'un droit à l'information, de la chose vérifiée?
Vous savez, moi je vous parle, j'ai donc dit que j'avais 50 ans de journalisme. Sur les 50 ans de journalisme, je dois bien en avoir 35 qui sont dans le service public. Il faut, d'une manière ou d'une autre, il y a de la contrainte. Alors, ce n'est pas forcément la même, si vous voulez. Mais je n'ai pas un amour tel de l'État que je lui fasse a priori confiance sur la prise de contrôle des médias. Ceci dit, je suis intimement persuadé. J'ai travaillé dans le service public suisse, j'ai travaillé dans le service public français, etc. Je suis intimement persuadé du caractère indispensable d'un service public fort, ne fût-ce que parce que, si vous voulez, vous avez un phénomène de concurrence, d'influence réciproque entre les médias. Et si le service public est une référence élevée, qui se situe haut dans les exigences, ben les autres vont devoir suivre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'information est absolument toute récente, mais on vient d'avoir les chiffres médiamétrie en ce qui concerne les radios. Je vois avec satisfaction que le groupe Radio France, d'une façon générale, qui est quand même un groupe qui a une certaine exigence au point de vue qualité, est en tête.
Justement, ce qui existe dans la radio, pourquoi n'existe pas-t-il autant dans la presse écrite?
Ah non, mais attendez. À partir du moment où vous avez demandé, vous avez diffusé l'idée de la gratuité de l'information, franchement, pourquoi est-ce que vous iriez mettre 1 euro, 1,50 € chez votre bureau de tabac pour obtenir un journal? Le vrai problème devant lequel est le problème de la fausse gratuité, parce que la gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye, mais on a laissé cette illusion se développer. Alors, ajouter par ailleurs des trucs complètement idiots, mais qui sont extrêmement importants, c'est la disparition des points de vente. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été journaliste pendant 50 ans. Depuis la première année où je suis entré dans cette profession, j'ai vu des plans de soutien au point de vente qui cassaient toujours la figure. Ça continue en ce moment. Lorsque vous avez des points de vente qui disparaissent, il ne faut pas faire croire aux gens qu'on va vendre des journaux. Ce n'est pas vrai.
Quelles étaient ces bases qui vous ont été enseignées en tant que journaliste en formation ou en études?
Alors, écoutez, ça serait bien que les gens se bouchent les oreilles là maintenant pendant quelques minutes pendant que je parle. Parce que la vérité que je vous dois, c'est que moi-même, je n'ai pas eu cet enseignement. Et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ces différentes éditions du Que sais-je sur l'écriture journalistique, c'est que je ressentais profondément moi-même le besoin d'avoir une colonne vertébrale, si vous voulez, pour guider ma pensée. Et donc, il a fallu que j'exprime en quelque sorte, avec, il faut bien le dire, le concours de nombreux autres collègues que j'écoutais, qui donnaient des cours avec moi. On se pompait les uns les autres, il n'y a aucun doute là-dessus. Et simplement, j'ai voulu à un moment donné que ça soit écrit pour qu'il y ait une sorte de repère. Et ça a donc donné ce Que sais-je.
Et puis, il y a aussi cet aspect, comment dire, de ce désir d'écrire, d'être journaliste, d'enquêter, d'investiguer, de découvrir, d'être curieux aussi. Est-ce qu'il existe une école ou c'est sa propre école ?
Non, mais évidemment que c'est sa propre école. Et puis d'ailleurs, ce qui est, je parlais tout à l'heure du bouquin que je suis en train d'écrire sur les hérétiques. On se rend compte, les années, les décennies passant, que l'envie de recourir au livre, pour être plus complet, pour introduire de la nuance, pour qu'il y ait des zones de gris, parce que malheureusement les formats en radio, en télévision, en presse écrite, etc. sont toujours limitatifs. Tandis que le livre offre plus de possibilités. Et sincèrement, si vous allez dans une bibliothèque ou dans une librairie en ce moment, et que vous regardez le pourcentage d'ouvrages qui sont écrits par des vieux journalistes, parce qu'à un moment donné, le bouchon a sauté et qu'ils ont envie d'écrire avec probablement plus de... une part plus personnelle que cela. J'écoutais hier un historien qui disait quelque chose d'extraordinairement intéressant sur le fait qu'il y a eu, à partir d'un certain temps, il y a 30 ans environ, dans le monde des historiens, l'apparition de l'envie, certes, de raconter l'histoire sur laquelle on a fait des recherches, mais en n'étant plus absent. C'est-à-dire, l'auteur, éventuellement ses motivations personnelles. Moi, si vous permettez, j'ai un exemple qui me vient en tête parce que c'est un exemple extrêmement frappant. Il y a un historien qui a écrit un livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle L'Hôtel de Bretagne. Cet historien est un spécialiste de l'histoire de la Résistance et il raconte un épisode de la Résistance en Bretagne. Il se trouve juste, et heureusement, il a l'honnêteté de le dire, que le fameux hôtel de Bretagne où il va se passer des tas de trucs, c'est un hôtel qui a appartenu à un membre de sa famille. Et au fond, il explique fort bien que s'il a écrit ce livre 30 ans, 40 ans après les événements, c'est parce qu'il avait envie d'y voir clair. Il avait entendu tant de choses à table, etc., qu'il ne comprenait pas bien ce qui s'était passé. Ben, ça va donner son livre, L'Hôtel de Bretagne. Moi aussi, il y a 2 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Terre de foi et de sang » sur l'histoire du Val de Drôme. Il était beaucoup à la première personne du singulier. Et au fond, c'est ça qui est bien, parce qu'il faut qu'il y ait cette espèce de chair, si vous voulez, du personnage qui écrit.
Tout à l'heure, vous parliez d'un peu de votre méfiance, de la mainmise de l'État sur la presse. On peut l'observer d'ailleurs avec ces lois qui ont été votées ces dernières années concernant l'information pour des affaires, ce qui a amené justement le secret des affaires, cette loi sur le secret des affaires, mais aussi sur d'autres types d'aspects sociétals qui justement peuvent mettre en défaut le travail du journalisme.
Écoutez, aucune mainmise n'est bonne. Je ne crois pas du tout que quel corps constitué que ce soit, qu'il s'agisse d'intérêts privés, qu'il s'agisse de l'État, etc., qu'il s'agisse même parfois du monde associatif, qui peut être extrêmement exigeant quelquefois vis-à-vis des médias. Moi, combien de fois j'ai eu des responsables d'associations qui me demandaient à relire mes papiers, ce que j'ai toujours refusé. Mais nous sommes dans un monde de rapport de force. Alors, il est exact qu'il y a des gens qui ont un peu plus de force que d'autres. Que circonstanciellement, l'État favorise celui-ci ou celui-là, je suis d'accord. Mais écoutez, pendant 50 ans, j'ai été journaliste, pendant 50 ans, je me suis engueulé avec des confrères. Pendant 50 ans, j'ai assisté à des réunions avec des gars, on n'était pas d'accord, et qui reflétaient ou qui ne reflétaient pas l'opinion du chef. Simplement, on ne voyait pas. Les grands journalistes, les grands chefs, si vous voulez, sont ceux qui ont une capacité d'écoute et de traduction de tout ce qu'ils ont entendu à un moment donné, dans une formule rédactionnelle, parce que c'est bien gentil, si c'est simplement pour dire « ouais, ouais, je t'écoute », mais il n'y a aucune, aucune suite, ce n'est pas intéressant. Moi, je pense que je ne connais pas très bien les services médicaux, mais j'imagine que dans un service, dans un hôpital, on s'engueule, parce qu'on n'est pas... Sincèrement, je réponds à vos questions parce que vous me posez des questions sur la presse, mais je suis sûr qu'on dirait ça à propos d'un service médical ou même d'une entreprise ultra classique, ça serait la même chose.
Pour un jeune lecteur ou moins jeune, quel conseil pourriez-vous indiquer pour pouvoir détecter une presse qui soit dans les faits ?
Je ne dirais pas exactement ça comme ça. Il se trouve que je parle couramment l'anglais. Malheureusement, je ne parle pas ou très 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 mal l'allemand, de même pour l'italien. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut se donner une discipline pour fabriquer soi-même sa bonne information et par conséquent confronter. Selon les sources, moi je suis un lecteur absolument quotidien du quotidien The Guardian de Londres parce que je considère que le sérieux de son information, précisément ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que lorsqu'il parle de quelque chose, on comprend très vite qu'il y a quelqu'un à eux qui est sur place, ce qui n'est pas indifférent. Du côté des Italiens, La Repubblica est un bon journal. Mais c'est notre responsabilité à chacun, vous comprenez. Je n'aime pas beaucoup les raisonnements qui sont basés sur l'idée de la faute des autres. Ce n'est pas la faute des autres. Si on veut être bien informé, il faut soi-même prendre en main sa propre édification, si je puis dire, en confrontant, on a très vite vu, si de toute évidence celui-ci ou celui-là est un charlot et que ça n'a pas l'air solide. C'est une opinion qu'on peut se faire, heureusement, très vite. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que de temps à autre, on voit que ça change. Je veux dire par là que de temps à autre, on voit des journaux qui s'améliorent ou qui empirent, au contraire. C'est notre responsabilité de chacun.
Vous avez rédigé un certain nombre d'ouvrages aussi, hein, pas forcément sur la presse ou le journalisme. Quels sont d'autres sujets de préoccupation qui vous ont incité à écrire ?
Alors, j'ai écrit plusieurs livres sur le protestantisme. Je suis très intéressé par l'archéologie, par conséquent, en particulier, j'ai écrit un livre sur les rapports entre l'archéologie et l'histoire de l'Ancien Testament, il y a assez longtemps. J'avais écrit un livre sur l'aménagement de la montagne, qui s'appelait L'Or Blanc. J'ai écrit un jour un polar, parce que ça m'amuse, j'aime beaucoup les polars. Alors, il est lancé là-dedans. C'est un grand... C'est pas... Il y a le changement du temps, le changement de la périodicité, le fait que... vous savez que pour faire un chapitre, vous avez le temps, vous pouvez y aller, vous pouvez développer, etc. Vous pouvez être dans le subtil. Je suis épuisé du caractère caricatural de, précisément, vous l'avez évoqué, mes réseaux sociaux, parce que ce n'est pas la vie. Ça n'est pas la vie. La vie ne consiste pas en polémiques incessantes, etc. Elle est pleine de subtilité. Dit souvent à propos d'un personnage de la région qui a été une figure qui a encouragé le sauvetage des Juifs, le pasteur Marc Bögner. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce personnage ? Au départ, c'était un véchiste. Et puis, brutalement, il s'est rendu compte que il était en train de se passer des horreurs. C'est ce moment-là, le moment où, si vous me permettez l'expression, il se convertit, qui devient intéressant. Et ça, vous ne pouvez pas le raconter en trois lignes, si vous voulez. Il faut pouvoir laisser la place à la subtilité.
L'écriture est un domaine pour vous, mais il y a aussi celui de la vidéo. D'ailleurs, vous avez créé Vidéo Val de Drôme, hein, je crois bien, où vous proposez des reportages sur des personnages, des personnalités de la région. Le dernier en date, d'ailleurs, qui est-il ?
Alors, nous sommes allés, par exception, je dois dire, à Dieulfi, parce qu'il se trouve que tout l'été qui est en cours, là, en ce moment, il va y avoir un ensemble de manifestations sur effectivement cette grande tradition du travail de la terre qu'est, et de la céramique, si vous voulez, la faïence. Et c'était intéressant de montrer qu'au fond, ça remonte aux Romains, qu'il y a eu également une histoire ouvrière avec des ouvriers qui étaient extrêmement fiers de ce qu'ils faisaient, avec des artistes, je pense à Jacques Pouchin disant ça, qui étaient tout à fait estimables. Mais je pense que nous allons prochainement faire quelque chose sur la petite localité des Tonilles à côté de Bourdeaux, une autre, quelque chose d'autre du côté de Vercheny avec les enfants de Paris. Ouais, là, jusqu'à Noël, je suis bien occupé.
Alors, l'écriture journalistique, cet ouvrage, est-il disponible sur Die d'ailleurs ?
Oh, écoutez, ça c'est à la librairie qu'il faut poser la question. Malheureusement, les auteurs n'ont pas cette compétence. En général, bon, les presses universitaires de France sont très bien diffusées et il y a de fortes chances qu'il en soit ainsi.
On peut vous retrouver pour des événements prochainement en tant qu'invité ou intervenant ?
Non, pas spécifiquement là-dessus. Là où il nous arrive d'avoir des manifestations publiques, c'est en tant que Vidéo Val de Drôme, c'est-à-dire qu'effectivement, les films que nous faisons, au fond, ont vocation à être vu par le plus grand nombre, ça tombe sous le sens. Et régulièrement, on est invité ici ou là pour faire des projections publiques, puis c'est sympa, on boit un coup de clairette derrière, tout va bien. Mais en revanche, bah, sur cet aspect-là, non, mais je suis ouvert à toutes les propositions.
Vous parlez de faits, de rédiger, d'énumérer les faits. Est-ce que ça vous arrive aussi, peut-être, de penser en fiction ?
Ah, ça, c'est une excellente question. Alors, d'abord, deux choses. Je vous disais tout à l'heure que j'ai écrit un polar il y a très longtemps. Et surtout, je me suis pas mal intéressé pour le compte de la Radio Suisse à ce moment-là sur toute l'école des auteurs de polar. Et je me suis rendu compte qu'au fond, beaucoup d'entre eux, je pense à Jean-Bernard Pouilly par exemple, étaient au fond d'anciens journalistes ou des journalistes toujours en activité, mais qui avaient besoin d'un autre cadre pour raconter ce qu'il voyait. La contrainte, alors d'abord la contrainte du temps, hein, la contrainte aussi de la longueur. Bon, quelquefois, pour arriver à exprimer de la subtilité, voilà, il faut dépager les pages. Et donc, ça les a poussés vers le roman policier. Je n'ai pas le talent personnellement d'être un bon auteur de fiction. Je crois que je suis un assez bon enquêteur. J'ai publié beaucoup d'enquêtes au fil du temps. Mais j'ai un peu regret, hein. Franchement, j'aimerais bien pouvoir faire une bonne fiction.
Voilà, je disais, j'avais entendu qu'un historien manquait d'imagination puisqu'il ne travaillait que sur du fait, du recueil de faits. Est-ce qu'il y a un parallèle entre l'historien et le journaliste aussi ?
Alors là, écoutez, c'est amusant ce que vous dites là, parce que je viens de voir passer la déclaration d'un historien qui disait il faut être capable d'imagination aussi. Alors il faut faire très attention, vous savez que nous avons dans notre région... Un ancien pasteur, Alexis Muston, qui était à Bourdeaux et qui a eu une heure de célébrité puisque c'était un ami de George Sand, de Lamartine, de Victor Hugo, etc., etc. Et l'année dernière, il était l'objet d'une biographie par Patrick Cabanel qui disait en rigolant « Ouais, bon, lorsqu'il raconte l'histoire de sa région de temps à autre, il invente un peu parce que la réalité, c'est qu'il ne sait pas. Quoi. Ça, c'est... Bon. Alors ça, je pense que ça, c'est dangereux, évidemment. Il vaut mieux que ça soit pas comme ça. En revanche, ce qui est vrai et qui me paraît très important, et d'ailleurs, je me suis confronté avec ça à propos de mon histoire sur les hérésies, c'est qu'il faut essayer par l'imagination de se recomposer le climat d'un moment tel que... qui est celui où se déroulent les faits. Et il arrive, c'est pas rare, que, bon, en tant que lecture objective, vous n'ayez pas grand-chose. Je vous le disais tout à l'heure, je faisais allusion au fait que j'étais hier à Bruys, qui se trouve, c'est la première commune des Hautes-Alpes lorsqu'on vient de la Drôme. Au fond, j'avais besoin d'un décor. J'avais besoin de voir à quoi ça ressemble. Parce que je sais que je vais écrire sur quelque chose qui va se passer là, j'avais besoin de mettre les gens dans le décor, même si évidemment j'aurais pu très sèchement me contenter des rares fêtes dont je disposais. Dans ce sens-là, l'imagination, vous avez raison, est importante.
L'hérésie, c'est un sujet d'ouvrage sur lequel vous travaillez actuellement. J'imagine que peut-être vous passerez nous voir lors de sa parution.
C'est sympa.
Mais qu'est-ce qui vous inspire justement ? Quel est ce contexte qui vous pousse justement à travailler sur ce thème ?
Comme vous le savez bien entendu, puisque vous êtes là depuis longtemps, notre région est très protestante. Et je me suis simplement posé la question pourquoi ? Pourquoi ici plus qu'ailleurs, etc. Et au fond, je me suis rendu compte qu'en y réfléchissant bien, nous avons pendant très longtemps avant que ne s'effondre le pic de Luc et que ferme donc le passage vers l'Est pour l'essentiel, je me suis rendu compte que nous étions une véritable éponge aux hérésies voisines, car il se trouve que ce que nous appelons aujourd'hui les Hautes-Alpes et qui ne s'appelait pas du tout les Hautes-Alpes à l'époque, et d'autre part les Piémonts français et italiens, ont été des véritables... alors, il y avait des hérésies absolument de partout. Et c'est juste à côté de chez nous, je veux dire. Vous allez au Mont-Genèvre, il vous faut 2 heures de voiture. Et bon, alors, vous me direz, à l'époque, ils allaient à pied. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a eu une zone de contact là. C'est pour ça que j'étais hier à Brice, parce que c'était vraiment typiquement le lieu de la zone de contact. Qui a amené chez nous des idées qui ont préparé, si vous voulez, le terrain à la réforme. Alors, bien entendu, si vous voulez, on parle là du 11e au 13e siècle, c'est-à-dire encore 3 siècles avant la réforme. Mais ça prépare le terrain. Ça fait que dans nos vallées, dans des endroits complètement paumés, vous avez des gars qui sont critiques vis-à-vis de l'Église de Rome, qui sont, il faut bien le dire, anticatholiques. Et que lorsque, plus tard, vont arriver les idées de la réforme, le terrain est préparé. Le problème, c'est que la définition d'une hérésie, c'est qu'on manque un peu. Il faut enquêter, il faut le travail du journaliste qui enquête, ou de l'historien, bien entendu. Parce que, par définition, lorsque vous êtes clandestin, vous ne laissez pas énormément d'écrits, si vous voulez. Il y a un exemple typique, le fameux Pierre de Bruys, dont je parlais tout à l'heure, hérétique notoire du XIIe siècle. La seule raison pour laquelle on le connaît, c'est pour la contradiction qu'on lui a apportée. On n'a pas une ligne de lui. En revanche, il se trouve qu'il y a le prieur de Cligny, Pierre le Vénérable, qui a écrit des tonnes de trucs sur lui parce qu'il était furieux de ce qu'il racontait, ce qui en particulier nous montre une chose, c'est que ce Pierre de Bruys était influent. Je pense que c'est toujours intéressant de se dire que l'histoire n'a pas commencé hier et que, par exemple, par conséquent, le protestantisme n'est pas arrivé chez nous en 1517, comme ça, pouf, soudain, de nulle part, etc. Non, non, il y avait depuis longtemps un terreau qui était travaillé.
Vous levez justement cet aspect de Pierre de Bruys, c'est ça, et que vous pensez qu'il était influent. Justement, cette l'influence de nos jours. C'est un sujet qui vous intéresse, l'influence d'une personnalité, d'une idée aussi.
Vous posez cette question à l'époque ou aujourd'hui?
À l'époque, mais retranscrite de nos jours, justement, et notamment dans la presse.
Alors, je pense qu'on a tous eu, pour la période contemporaine, ou pour, disons, pour être plus exact, pour la période de nos vies, des gens qui nous ont inspirés, des journalistes qu'on aimait lire. Quand bien même, d'ailleurs, on était en désaccord avec eux. Mais c'est une des raisons pour lesquelles l'écriture est une chose aussi importante. C'est-à-dire que lorsque vous avez un texte qui est séduisant, parce qu'il est bien écrit, vous accepterez que le gars vous dise des trucs qui ne vous plaisent pas du tout, mais parce que c'est agréable à lire. Moi, on reparle là de mon livre une seconde. Ce que j'essaye d'encourager les journalistes à faire, c'est à faire des textes qui donnent du plaisir, si vous voulez. Et je crois qu'il y a eu, si vous permettez, pour ma génération, un certain nombre de lieux qui étaient des lieux d'excellence sous cet aspect. Je pense, par exemple, que, le premier quotidien Libération était un lieu où les formes d'écriture étaient si nombreuses, si variées, que même si on était agacé par tel ou tel thème, c'était bien fichu. Il y avait vraiment une dimension, si vous voulez, littéraire. Il ne faut pas que les journalistes abandonnent la littérature, si je puis dire. Alors, de la littérature journalistique, si vous voulez, ramener au format du journal ou de l'émission de télévision ou de radio. Mais moi aussi, j'ai un... Je cherche le nom de ce cinéaste écossais, documentariste qui a beaucoup raconté la classe ouvrière.
Ken Loach.
Voilà, merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là pour me sauver. Bon. Ken Loach, pourquoi est-ce qu'il a de l'influence? Parce que c'est bien fait. Parce qu'il a du talent. Ça n'est pas en raison des... Alors certes, il applique son talent à des sujets, la défense de la classe ouvrière. Mais, si vous voulez, je dis ça en pensant tout à l'inverse à un certain nombre de supposés médias dont le mérite principal est l'aboiement, mais où je ne vois pas de talent, si vous voulez. En termes de plaisir, lorsque je regarde, je n'en ai pas, parce que c'est d'un conformisme total dans les formes, il n'y a aucune inventivité, et donc, moi, très sincèrement, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Tandis que de temps à autre, vous avez, Ken Loach, pour prendre cet exemple, qui vont imposer une idée de la même manière que, par exemple, les hommes de Serge Julie à Libération à un moment donné, parce que c'était chouette à lire, quoi, si vous voulez. Et ça, c'est un enjeu majeur.
Alors, vous parlez du plaisir de lire,
oui.
Le plaisir de découvrir, mais il y a un écueil aussi sur ce parcours, peut-être, c'est la société du spectacle. Est-ce que la presse n'est pas noyée, justement, dans cet univers?
Alors, je dirais oui, mais sous un angle un peu particulier. Nous crevons de la communication. C'est-à-dire qu'au fond, ce que nous appelons l'actualité est une course entre les différentes formes de communication, des uns, des autres, les patrons, les syndicats, les alternatifs, les machins, etc. Et c'est la raison pour laquelle, pour départager tout cela, il faut qu'il y ait du journalisme. Le journalisme, ça ne consiste pas à recopier. Et malheureusement, sous couvert quelquefois de faire de l'opinion, un certain nombre de journalistes se contentent de recopier. Recopier ce qui est une pensée dominante ici ou là. Et selon leur opinion, ce sera plutôt ici ou plutôt là. Mais moi, je pense que il y a des choses tout à fait étonnantes. Prenez un exemple, la tragédie du Rwanda. Quel est le journal qui a sorti ça? À la surprise générale, c'est le Figaro. Bon, c'est vrai que Le Figaro n'est pas connu pour être... Mais voilà, un jour, il s'est passé quelque chose, Patrick de Saint-Exupéry, puisque c'est lui, est tombé là-dessus et a sorti ça. Des fois, on a des surprises. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut mettre un... Enfin, moi, je me méfie comme de la peste de la communication, que ce soit la communication gouvernementale, de tel parti, de telle association, etc. Parce que je sais très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire propagande. C'est très clair. Et même lorsqu'on se part de toutes les vertus en disant « oui, mais ma cause est juste », etc. Oui, enfin, en attendant, c'est de la propagande pour la cause en question.
Quel mot dire pour justement encourager l'achat de ce livre, l'écriture journalistique ?
Je pense qu'à 80%, il sera lu par des gens qui ont des projets journalistiques. Alors, soit qu'ils soient en train d'étudier le journalisme, ou bien que... D'abord, il y en aura peut-être quelques-uns qui se sont arrêtés et qui reprennent et qui veulent se remettre dans le circuit, si j'ose ainsi m'exprimer. Mais alors, ceci dit, je vais vous dire, j'ai une expérience assez amusante. J'ai un ami qui est chirurgien, vraiment, ça n'a rigoureusement rien à voir, et qui a lu la précédente édition. Au fond, dans un certain souci de décryptage, si vous voulez, pour comprendre ce dont il était un consommateur involontaire, etc. Et ce qui m'a étonné, parce que ce livre n'est pas à proprement parler comique, quoi. C'est pas le mot que j'utiliserais. Et ben, ce qui m'a intéressé, c'est que ça lui a plu, probablement parce que ça démonte un peu les rouages.
Jacques Mourican, je vous remercie d'être venu sur RDWA pour nous parler de cette édition de l'écriture journalistique qu'on peut trouver aux collections, que sais-je, des presses universitaires de France. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Cirrus Minor, saw a crater in the sun, a thousand